Bien-aimés, bienvenue sur Riverwood Podcast. Je suis le frère Alain Mizel, fondateur des ministères Riverwood International, ici donc à Laval, Québec, Canada. Aujourd'hui, nous continuons notre série d'enseignements sur le sujet « Connaître Dieu ». Nos podcasts sont disponibles sur www.riverwood.podomatic.com ou en souscrivant à iTunes, Twitter ou Facebook et sont sponsorisés par le ministère Riverwood International ici à Laval, au Québec, Canada. Le sujet de cette semaine est « Souveraineté, un caractère majestueux de Dieu ». Souveraineté, un caractère majestueux de Dieu. Eh bien, dans nos deux derniers enseignements, nous avions appris à connaître Dieu et comment il est un esprit auto-existant qui s'est révélé à l'homme par la création, l'instinct divin dans l'homme, la Bible et la visite divine sur la planète Terre. Nous avons également commencé à comprendre sa nature et savons maintenant qu'il est le seul vrai Dieu qui s'est révélé comme existant en trois personnalités divines coégales du Père, Fils et Saint-Esprit. Nous allons maintenant aller plus loin dans la nature de Dieu en étudiant ses traits de caractère majestueux et moraux. Nous avons précédemment appris qu'il est important de connaître et de comprendre ses traits de caractère parce que dans tout ce que Dieu fait, ses traits de caractère marchent en une seule unité. Et en d'autres termes, Dieu n'est pas fait de différentes pièces. Tous ces traits de caractère majestueux et moraux fonctionnent ensemble et sont éternellement présents. Nous ne pouvons appeler son amour le samedi, sa puissance le dimanche et sa justice le mercredi. Eh bien, chaque fois que nous faisons appel à un de ces traits de caractère, il vient dans un tout accompagné par les autres traits de caractère. Par exemple, si nous demandons la justice de Dieu, eh bien, sa justice va se manifester à nous, omnisciente, omnipotente, omniprésente, immuable, parfaitement sainte, toute amour et bonne. Eh bien, les traits de caractère majestueux de Dieu définissent sa grandeur, sa splendeur et son œuvre puissante de délivrance révélée dans la création. Le premier des traits de caractère majestueux que nous allons voir, est la souveraineté de Dieu, la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain parce qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs qui exerce activement un contrôle absolu sur toute sa création à son propre gré et ne rend compte à personne excepté lui-même. De nouveau, Ésaïe 46, versets 9 à 10, le confirme. Ésaïe 46, 9 à 10 dit ceci. « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Dieu dit que ce sera sa volonté qui s'imposera sur toute sa création, y compris sur chaque homme, pays, continent, planète, système, galaxie, univers. Ça ne sera pas la volonté d'un homme, d'un politicien ou d'un dictateur. Dans sa souveraineté, Dieu n'est pas obligé d'expliquer ce qu'il fait à sa création. Il fait tout à son dessein, se tenant hors de la dimension du temps et de l'espace et regardant son œuvre finie. Quand nous regardons le monde du point de vue de l'homme, les choses semblent être sans espoir et chaotiques. On a l'impression que personne ne maîtrise la situation et que le mal est en train de triompher sur le bien. Cependant, quand nous regardons les choses du point de vue de Dieu à travers sa parole, il devient très rapidement évident que Dieu dirige sa création avec un contrôle absolu. Le tout pour sa gloire et le bonheur de ceux qu'il aime et qui sont en alliance avec lui. Quand nous regardons les événements historiques mondiaux par notre connaissance humaine, c'est comme être acteur dans un film et nous connaissons les choses que par partie. Alors que la perspective de Dieu est comme celle du directeur d'un film. Par exemple, si Steven Spielberg, en tant que directeur, fait un film disant, par exemple, « Sauver le soldat Ryan » et dit qu'il est bon, et maintenant il le joue, ben, il connaît chaque scène du film et comment toutes les parties du film s'accordent. Steven ne peut pas être surpris par une seule scène du film qu'il a fait et dirigé lui-même. La durée de vie humaine ne lui permet de regarder les choses que dans une très petite fenêtre. Comme je l'ai dit précédemment, Dieu a prévu ce petit interlude, notre court passage par le temps et l'espace que nous appelons la vie, pour que l'homme soit racheté et n'entre pas dans l'éternité dans un état déchu. Ne perdez donc ni votre temps, ni votre vie, chers frères et sœurs. Apprenez à connaître Dieu, et quelle que soit votre intelligence. La Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, et qu'il est insensé de dire que Dieu n'existe pas. Eh bien, dans le but de mettre en œuvre ses plans et ses desseins, Dieu exerce sa souveraineté dans les domaines suivants. Premièrement, Dieu est souverain sur la nature. Deuxièmement, Dieu est souverain sur l'homme. Troisièmement, Dieu est souverain sur son conseil, ses décrets et ses proclamations. Et quatrièmement, Dieu est souverain sur le cours de l'histoire. Parce que Dieu est souverain sur la nature, ben, il peut diriger la nature comme cela le plaît et abroger les lois de la nature dont il est créateur pour opérer des miracles et ainsi faire avancer ses plans et ses desseins. Par exemple, dans sa souveraineté, Dieu peut annuler les lois de la gravité et de la rotation des planètes pour imposer ses desseins. Ben, on le voit dans Josué 10, chapitre 10, versets 12 à 13. Josué 10, 12 à 13, ce passage de la Bible dit « Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux Israélites. Et il dit devant Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. » Le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation se soit vengée de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne s'empressa pas de se coucher durant presque tout un jour. Nous voyons dans cette grande victoire de Josué et d'Israël que Dieu arrêta la rotation et la révolution de la terre un jour entier pour permettre la victoire des siens. Eh bien, dans sa souveraineté, Dieu a également un contrôle absolu et peut abroger l'instinct naturel d'être volant, tels les oiseaux par exemple. Il y a un bel exemple dans la Bible qui est celui d'Élie. Dieu demanda au corbeau de nourrir Élie et cette histoire se trouve dans 1 Roi chapitre 17 versets 3 à 6. Voici ce passage dit. Pars d'ici en direction de l'est et cache-toi près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir, là. Élie partit et se conforma à la parole de l'Éternel. Il alla s'installer près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande, matin et soir, et il buvait de l'eau du torrent. Nous voyons aussi que Dieu contraigna et abrogea l'instinct naturel des corbeaux, qui sont parmi les oiseaux les plus avares de la planète, pour remplir ses desseins. Un Dieu souverain qui peut arrêter la rotation de la terre toute une journée ou causer un oiseau avare à nourrir son prophète peut certainement satisfaire tes besoins ainsi que les besoins de tous ceux qui l'aiment. Dans sa souveraineté, Dieu exerce un contrôle absolu et abroge la volonté de l'homme y compris sa volonté à pécher, et Dieu utilise tout ceci pour ses bons desseins. Voici ce que Proverbe 19:21 dit. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Ben, Dieu peut faire changer la volonté et les projets du cœur de l'homme pour faire avancer ses plans. C'est tout ce que cela, Proverbe 19:21 veut dire. La relation en fait entre Dieu et l'homme concernant son libre arbitre, sa volonté et le problème des choix humains et du péché, parce que la question qu'on se pose naturellement est de savoir, ben, si Dieu est au contrôle, si Dieu est souverain, pourquoi est-ce que l'homme pêche? Ben, ce problème, c'est une relation, ça s'apparente à une relation entre un père et son fils dans une famille. Le père a une liberté absolue, alors que le fils opère sous une liberté limitée. Le fils doit obéir certaines règles et instructions dans la maison, et s'il les viole constamment, alors le père est obligé de tirer sur les ficelles et limiter ses libertés. Mais le fait que le fils viole les règles ne fait pas de lui moins qu'un fils. Il est toujours le fils de son père, et papa abroge, pardonne et oublie les erreurs qu'il commet. De la même façon, Dieu détourne notre mal et l'utilise pour ses propres bons desseins, de telle sorte que même dans nos péchés, nous aidons toujours à l'accomplissement des plans de Dieu. Eh bien, l'histoire de Joseph dans la Bible a après tout une fin heureuse. Et voici comment Joseph la résume lui-même dans Genèse 45, versets 7 à 8. Genèse 45, versets 7 à 8. Voici ce que Joseph dit. Dieu m'a envoyé ici, et il est en train de dire à ses frères et à son père. Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. Et voici ce que Joseph ajoute. Et il ajoute dans Genèse 50:20, vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple. Ben, ce que Joseph disait simplement à ses frères et à son père est que malgré le fait que ses frères aient comploté pour le jeter dans une fosse et qu'il ait été vendu comme esclave à la maison de Potiphar et que la femme de Potiphar l'ait faussement accusé et qu'il ait été jeté en prison où il finira par rencontrer un majordome qui se souviendra de son don d'interprétation de rêve, ce qui fera qu'il soit emmené devant Pharaon et de là à devenir seigneur de la maison de Pharaon et gouverneur de toute l'Égypte, eh bien, Dieu utilisa tous ces événements qui semblaient si mauvais en surface, qui donnaient l'impression que le mal triomphait sur le bien, eh bien, pour abroger et ainsi causer le bien à sortir du mal. Alors que le diable complotait chaque événement dans la vie de Joseph, Dieu s'assurait de le dévancer et d'aplanir les sentiers devant Joseph, et de transformer chaque désert en jardin d'Éden, de telle sorte que les mêmes armes que le diable avait préparées pour détruire la vie de Joseph, eh ben, Dieu les utilisa pour sauver sa famille, et mieux encore, un peuple que nous connaissons aujourd'hui comme le peuple juif, et une nation que nous connaissons aujourd'hui comme Israël. Eh bien, voici ce que Romains 8, 28 dit. Romains chapitre 8, verset 28 dit ceci. Du reste, nous savons que tout contribue ou tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés conformément à son plan ou qui sont appelés conformément à ses desseins. Tout concourt au bien, tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Eh bien, Paul dit que si vous aimez Dieu, c'est-à-dire que vous avez une relation personnelle et intime avec lui, où vous permettez à son Saint-Esprit de venir dans votre vie et de vivre la vie de Jésus-Christ à travers vous, alors quand vous faites le total de tout ce qui s'est passé autour de votre vie, y compris la maladie, la prospérité, le bonheur, le chagrin, la tristesse, l'amour et même la mort, eh bien, tous ces événements qui se sont passés dans votre vie l'ont été pour deux raisons, et seulement deux raisons. D'abord, pour votre bien, et ensuite, pour l'accomplissement de la volonté et des desseins de Dieu sur la terre. Oui, tout concourt et contribue à ton bien, même la mort, parce que pour le vrai croyant, la mort n'est pas la fin de toute chose. C'est le commencement d'une aventure glorieuse et éternelle avec Dieu. Et c'est pour cela que la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 55, « Mort, où est ton aiguillon ? Enfer, où est ta victoire ? La mort n'a point de victoire. » Beaucoup de croyants ne comprennent pas la mort et agonisent sous l'esprit de peur, surtout la peur de la mort. Eh bien, voici ce qui se passe quand un vrai croyant meurt. Quand les croyants meurent, leurs âmes vont directement, immédiatement au ciel, dans la présence de Dieu, où ils vont attendre la résurrection de leur corps et éventuellement le trône de jugement de Christ. Paul dit qu'être absent du corps, c'est être dans la présence du Seigneur. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 8. Avant que Jésus ne paye le prix pour le péché, soit ressuscité et élevé vers le ciel pour s'asseoir à la droite du Père, les âmes des croyants allaient au paradis, qui est également connu comme le sein d'Abraham, parce que le sacrifice des béliers et des boucs pour l'expiation de leurs péchés était incomplet. Vous comprenez bien que le sein d'Abraham, eh ben, c'est la partie supérieure du Sheol ou le Hadès, et cette description de l'après-vie est faite dans l'histoire de l'homme riche et le pauvre Lazare dans Luc chapitre 16 verset 19 à 31. Eh ben, après que Jésus ait fait le sacrifice parfait et complet par son sang, il a ouvert le chemin pour que les âmes de tous les croyants qui meurent soit accompagné par les anges en la présence de Dieu au ciel, où ils attendront la résurrection de leur corps. La Bible dit dans Romains 8, 29, que Jésus est devenu le premier-né d'un grand nombre de bien-aimés, frères et sœurs, des bien-aimés frères et sœurs. Mais il était le premier à vaincre la mort et à aller au ciel pour s'asseoir à la droite du Père, pour organiser la venue des croyants. Dans Hébreux 2, chapitre 2, verset 13 à 15, Paul dit que la mort, que par la mort, dans la chair, Jésus a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. Paul veut dire que la peur de la mort s'assimile à l'esclavage, et tu n'as pas à être esclave de Satan et de ses malices, fils de Dieu. Alors, la mort, pour le vrai croyant, n'est vraiment pas. C'est une promotion dans la paix, la joie et la célébration d'une vie bien vécue pour Dieu, pour continuer une aventure qu'il a commencée avec Dieu à l'échelle du temps vers l'éternité. La mort d'un vrai croyant doit être célébrée, pas pleurée. Oui, nos bien-aimés nous manquent au cours de la courte séparation, avant que nous soyons réunis une fois de plus, et nous pouvons être tristes, nous avons toutes les raisons d'être tristes. Voici une deuxième raison pour ne pas être triste à la mort de nos bien-aimés, et l'assurance que Dieu te donne, toi, en tant que croyant. Paul dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 5, 10. « En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. » Paul dit qu'après la mort, nous devrons tous comparaître devant le tribunal de Christ. C'est en fait le tribunal de récompense de Christ, un rassemblement où tous les croyants comparaîtront devant Christ pour être examinés et récompensés pour leur vie chrétienne et leur service à Dieu. Le mot grec traduit tribunal dont Paul fait usage ici, eh ben c'est le mot bema, bema, B-E-M-A. Eh ben dans l'empire grec, le bema c'était une plateforme rejointe par un escalier sur laquelle se tenait un juge. Eh ben ce juge donnait des récompenses aux gagnants de compétitions spéciales. C'était un lieu de récompense car tous ceux qui se présentaient au bema eh ben, recevait une récompense. Un site est l'objet du tribunal de Dieu, de récompenser chaque croyant pour leur vie chrétienne et leur acte d'obéissance et de service à Dieu. Le béma ne détermine pas si tu vas au ciel, il ne juge pas non plus tes péchés, puisque ceci était réglé à la croix du calvaire. Ce que le béma déterminera, par contre, est la mesure de la gloire de Christ que tu porteras pour l'éternité dans ton corps glorifié. La mesure de la gloire de Christ que tu porteras pour l'éternité dans ton corps glorifié. Et cela est déterminé par la façon dont tu vis ta vie et sers Dieu dans cette vie présente. Finalement, Dieu est souverain sur ses décrets et proclamations qui incluent ses promesses dans la Bible. Et c'est ce que Nombre 23, 19 nous dit. Nombre, chapitre 23, verset 19 dit ceci. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Ce verset dit que dans sa souveraineté, Dieu va accomplir tout ce qu'il a dit et promis par sa parole et ses prophètes, ainsi que tout ce qu'il a proclamé par sa volonté et son conseil divin. C'est pour ces raisons que nous devons connaître ses décrets tels qu'est mis dans la Bible, pour que nous comprenions sa volonté et ses plans pour nos vies. Dieu souhaite se glorifier par toi, cher bien-aimé, frère et sœur, et c'est pour cela que tu étais créé d'ailleurs. Et tu peux découvrir sa volonté pour toi par ses décrets dans la Bible. Dieu a montré l'exemple de ce qu'est une vie vécue pour lui par la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Eh ben, ces délices, les délices de Dieu, c'est de nous voir en tant que chrétiens ou petites copies de Christ répéter cette expérience. Même si un petit groupe du Sanhédrin avait comploté pour amener Jésus-Christ à la mort, Pierre dit ceci de la mort de notre Seigneur et du plan divin. Dans Actes chapitre 2, verset 23. Actes chapitre 2, verset 23, voici ce que Pierre y dit. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la préscience de Dieu. Suivant le projet défini et la préscience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Eh bien, Pierre dit que tout cela était prédéterminé par le conseil divin. En d'autres termes, Dieu abrogea le complot du Sanhédrin et le mal dans le cœur des hommes et l'utilisa pour couronner Jésus de gloire, de puissance et de majesté pour toujours. Et c'est ce que Hébreux 2 au verset 9 à 10, Hébreux chapitre 2, 9 à 10 nous dit. Et mieux encore d'ailleurs, pour que toi et moi, en tant que ses vrais disciples, nous puissions partager dans cette gloire. Alors Dieu dirige le cours de l'histoire et des événements du monde. En fait, Dieu a déjà prévu et préarrangé le cours des événements du monde et a déjà dérogé le mal pour le bien de son peuple d'alliance. Voici ce que Hébreux 11, 3 dit. Hébreux chapitre 11, verset 3 dit ceci à ce propos. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi, le monde visible tire son origine de l'invisible. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. Harmonieusement organisé. Eh bien, il y a une traduction anglaise qui dit que l'univers a été cadré. Il a été cadré par la parole de Dieu. Si Dieu a décrété que l'univers reste harmonieusement dans un cadre précis, eh bien, cela veut dire que les choses ne peuvent sortir du cadre dans lequel Dieu les a mis. Lorsque nous encadrons une image, eh ben, elle reste dans le cadre précis dans lequel nous l'avons mise. C'est comme un train qui est cadré, calé et mis sur des rails. Cela veut dire que Dieu a mis dans un cours précis les événements passés, présents et futurs de l'histoire. En fait, le cours de l'histoire tel qu'on le connaît n'est en réalité qu'une manifestation du plan de Dieu pour atteindre les décisions de son conseil divin. Ainsi donc, comprenez bien que dans sa souveraineté, Dieu utilisa les Assyriens de Babylone et Nebuchadnezzar pour conquérir Israël en 606 avant Jésus-Christ, pour amener les Hébreux au respect du Shabbat des 7 ans, auquel ils avaient désobéi pendant 490 ans. Dieu a permis qu'ils soient en captivité pendant 70 ans, une année pour chaque Shabbat de 7 ans qu'ils n'avaient pas respecté. Deux, dans sa souveraineté, Dieu a permis à Cyrus, roi des Mèdes et Perses, de conquérir Babylone en 536 avant Jésus-Christ, pour que les Hébreux repartent en terre sainte et reconstruisent le temple. 3. Dans sa souveraineté, Dieu éleva et utilisa un jeune dirigeant, Alexandre le Grand, en 333 avant Jésus-Christ, pour conquérir le monde et établir l'Empire grec, pour utiliser la langue grecque à l'écriture de l'Évangile de Jésus-Christ et du Nouveau Testament. 4. Dans sa souveraineté, Dieu utilisa l'Empire romain en 30 avant Jésus-Christ pour bâtir les routes, les ponts, ainsi de suite, qui vont transporter, qui vont permettre le transport de l'Évangile en langue grecque dans tout l'Empire romain. 5. Dans sa souveraineté, Dieu utilisa le mal du cœur de l'homme à travers Rome et un petit groupe du Sanhédrin pour crucifier Jésus-Christ en accomplissement total de la volonté et du plan du conseil divin. Tout cela pour que par sa mort, un sacrifice parfait soit fait une fois pour toutes pour le péché et que la vie éternelle soit impartie à tous les croyants, juifs et chrétiens. 6. Dans sa souveraineté, Dieu utilisa un homme juif messianique, sépardique, au nom de Cristobal Colomb, celui qu'on appelle Christophe Colomb, pour découvrir l'Amérique, et plus tard, M. Solomon, un juif polonais ashnazique, pour financer et supporter la révolution américaine, et ainsi poser les bases pour l'établissement d'une nation sous Dieu appelée les États-Unis d'Amérique, qui deviendront la fondation de la chrétienté et de la justice sur terre. 7. Dans sa souveraineté, Dieu utilisa un homme juif appelé Shem Wiseman pour créer des explosifs à l'acétone qui aideront l'Empire britannique à gagner la guerre contre les Turcs et les Ottomans et ainsi mettre fin au règne de l'Empire ottoman sur la terre promise. Ce qui conduisit James Balfour à déclarer la création de l'État moderne d'Israël en 1917. 8. Dans sa souveraineté, Dieu utilisa la fin désastreuse de la Deuxième Guerre mondiale pour faire des États-Unis la première puissance mondiale et éleva Harry Truman, le Cyrus des temps modernes, pour supporter l'indépendance et la naissance de l'État d'Israël. 9. Dans sa souveraineté, Dieu a renforcé l'État d'Israël entouré par des États arabes hostiles et des millions de combattants ennemis, même souvent plus importants en nombre, et a permis que Israël triomphe guerre après guerre, de la guerre de l'indépendance à la guerre du Liban, en passant par la guerre des six jours, la guerre du Yom Kippour. 10. Dans sa souveraineté, Dieu va à la fin des temps établir le royaume de Jésus-Christ, la grande montagne qui va remplir la terre, la pierre qui a frappé dans la vision de Daniel. Daniel 2, versets 34 à 35. Vous voyez donc, chers frères et sœurs, que quand l'ennemi vient contre toi en tant qu'enfant de Dieu et met des pierres d'achoppement sur ta route, rappelle-toi que tu sers un Dieu souverain qui transformera chaque embûche en starting block pour toi. Il peut transformer tes déceptions en réceptions. Il est au contrôle de chaque événement de ta vie et tu dois placer pleinement ta confiance en lui parce qu'il a déjà déclaré ta fin dès le commencement. Amen et amen et amen. Eh bien, nous vous remercions de votre visite et espérons vous retrouver la semaine prochaine. Vous pouvez accéder à nos podcasts sur www.riverword.podomatic.com ou sur www.riverwordinternational.org, sur iTunes ou encore sur nos sites Twitter et Facebook. Merci beaucoup, le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine.